Voilà, nous allons faire des lectures sur le thème de la prédication. En fait, nous devons lire quasiment tout le chapitre 22 de l'évangile de Luc. Alors, on va se partager un petit peu la tâche avec Sylvie. Et ce chapitre 22 évoque justement ces derniers temps de Jésus avec ses disciples, juste au moment de la trahison de l'un d'eux. Donc, on était à quelques jours de la fête des pains sans levain. La fête des pains sans levain, c'est précisément la Pâque. Les chefs des prêtres et les interprètes de la loi cherchaient un moyen de supprimer Jésus. Mais ils avaient peur de la réaction du peuple. C'est alors que Satan entra dans le cœur de Judas, nommé l'Iscariote, l'un des 12. Judas alla trouver les chefs des prêtres et les officiers de la garde du temple pour s'entendre avec eux sur la manière dont il leur livrerait Jésus. Ils en furent tout réjouis et convinrent de lui donner de l'argent. Il accepta et dès lors, cherchant une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule.
Le jour de la fête des pains sans levain, où l'on devait tuer l'agneau de la Pâque, arriva. Jésus envoya Pierre et Jean en leur disant, « Allez nous préparer le repas de la Pâque. »« Où veux-tu que nous le préparions ? » lui demandèrent-ils. « Eh bien, quand vous entrerez dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le jusqu'à la maison où il entrera. Et voici comment vous parlerez au maître de maison. » Le maître te fait dire, où est la pièce où je prendrai le repas de la Pâque avec mes disciples? Alors, il vous montrera, à l'étage supérieur, une grande pièce aménagée. C'est là que vous ferez les préparatifs. Ils partirent donc, trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit, et préparèrent le repas de la Pâque. Quand ce fut l'heure, Jésus se mit à table avec les apôtres. Il leur dit, j'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. En effet, je vous le déclare, jamais plus je ne la mangerai jusqu'au jour où tout ce qu'elle signifie sera accompli dans le royaume de Dieu. Puis il prit une coupe, prononça la prière de bénédiction et dit, prenez cette coupe et partagez-la entre vous, car je vous le déclare, dorénavant, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit établi.
D'ailleurs, voici, celui qui va me trahir est ici, à table avec moi. Certes, le Fils de l'homme s'en va selon ce que Dieu a dit décidé, mais malheur à l'homme par qui il est trahi. Alors les disciples se demandèrent les uns aux autres, lequel d'entre eux allait faire cela. Alors on va sauter un passage dans lequel on voit que les disciples se querellent entre eux, sur cette question, lequel va faire cela? Alors Jésus les reprend gentiment. Il essaye de leur expliquer, encore une fois, ce que sera le royaume. Et finalement, Jésus interpelle Simon. Simon, fais attention. Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible, comme on secoue le blé pour le séparer de la balle.
Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que la foi ne vienne pas à te manquer. Et toi, le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Seigneur, lui dit Simon, je suis prêt, s'il le faut, à aller en prison avec toi, ou même à mourir. Pierre, reprit Jésus, je te l'assure, aujourd'hui même, avant que le coq ne chante, tu auras par 3 fois nié me connaître. Puis, s'adressant à l'ensemble des disciples, il continua. « Quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac de voyage, ni sandales, avez-vous manqué de quoi que ce soit ?»« De rien, » dirent-ils. « Eh bien maintenant, » poursuivit-il, « si vous avez une bourse, prenez-la. De même, si vous avez un sac, prenez-le. Et si vous n'avez pas d'épée, vendez votre manteau pour en acheter une. » Car il est écrit, « Il a été mis au nombre des criminels » Et cette parole doit s'accomplir pour moi, car tout ce qui a été écrit de moi va s'accomplir. « Seigneur, lui dirent-ils, voilà justement deux épées. »« Cela suffit, leur répondit-il. » Alors il sortit et se dirigea comme d'habitude vers le mont des Oliviers. Ses disciples s'y rendirent aussi avec lui. Quand il fut arrivé, il leur dit « Priez pour ne pas céder à la tentation. » Puis il s'éloigna d'eux, à la distance d'un jet de pierre, se mit à genoux et pria ainsi. « Ô Père, si tu le veux, épargne-moi la coupe de l'épreuve. Toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. » Un ange, venu du ciel, lui apparut et le fortifia. L'angoisse le saisit, sa prière se fit de plus en plus pressante, sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Après avoir ainsi prié, il se releva et s'approcha de ses disciples. Il les trouva endormis, tant ils étaient accablés de tristesse. « Pourquoi dormez-vous ? » leur dit-il. « Debout et priez pour ne pas céder à la tentation. »
Il n'avait pas fini de parler quand toute une troupe surgit. À sa tête marchait le nommé Judas, l'un des 12. Il s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Mais Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. » En voyant ce qui allait se passer, les compagnons de Jésus lui demandèrent, « Maître, devons-nous frapper avec nos épées ?» Et immédiatement, l'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus les retint en disant, « Laissez faire même ceci. » Puis il toucha l'oreille du blessé et le guérit. Il se tourna ensuite vers les chefs des prêtres, les chefs des gardes du temple et les responsables du peuple qui avaient accompagné cette troupe pour le prendre. « Me prenez-vous pour un bandit, pour que vous soyez venus avec épées et gourdins ?» J'étais chaque jour avec vous dans la cour du temple, et personne n'a mis la main sur moi. Mais maintenant, c'est votre heure, et les ténèbres vont exercer leur pouvoir.
Je me suis promis de ne jamais vous donner une illustration concernant le cricket, parce que c'est vraiment trop compliqué. Mais... est-ce que le bridge pourrait aller? Le bridge, ce jeu de cartes où il y a deux camps adverses et puis on joue en partenariat. Je ne sais pas si quelqu'un ici sait jouer au bridge. Je ne devrais pas poser la question. Je vous l'explique. Deux parties, deux camps adverses et puis... il y a donc 13 cartes pour chacun. On joue en partenaire et d'une manière codée, on dit à l'autre, on essaie de faire un contrat, combien de parties on va gagner. Et puis, d'une manière codée, on négocie le contrat de combien de parties on va gagner. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois le contrat établi, un joueur doit poser ses 13 cartes à la vue des 3 autres. Et c'est son, il peut plus rien faire, les jeux sont faits, et puis c'est son partenaire qui doit essayer de veiller ce qui est convenu comme contrat, on arrive à le réussir. Il faut avoir une confiance totale dans son partenaire parce que c'est lui qui doit décider si on réussit ou non. Je vous dis entre parenthèses que c'est au lycée que je jouais parce qu'il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque. Il fallait passer son temps à faire quelque chose. Ici, on a deux camps. Charles Abel a lu la partie d'un camp et ses préparatifs de sabotage. Et puis un deuxième camp, des préparatifs de sauvetage. Et on a nettement l'impression que les deux plans arrivent à la phase décisive. D'abord, il y a ces préparatifs de Satan et de sabotage. C'est les préparatifs du camp adversaire. À première vue, c'était le moment idéal. Bon, c'était pas le moment idéal. Les foules étaient là, très très nombreux à Jérusalem. C'est le moment de la Pâque. Joseph, un historien, a estimé qu'on montait jusqu'à plus que 2 millions à Jérusalem pour la Pâque. Et les chefs religieux s'en méfient de cette foule. Mais le meneur du jeu, au verset 3, Satan, en a décidé autrement. Parce que maintenant, il croit avoir tous les atouts en main. Judas ne vient-il pas de se présenter, lui, un des 12, et il se dit prêt à dévoiler le jeu de son maître. Oui, il y a un prix, mais le prix fixé est modeste, 30 pièces d'argent. Peu de choses par rapport à ce qui est en jeu. Donc, plus besoin de jouer la carte de la prudence. L'affaire est conclue, Jésus sera livré. Judas retourne donc pour participer aux préparatifs du côté de son ex-maître. Pourquoi il a changé ainsi de camp? Est-ce qu'il avait calculé qu'il pouvait gagner plus gros dans le camp adverse? Semble-t-il que Satan a trouvé une prise dans sa convoitise qui s'était déjà manifestée à différents moments? Dans tous les cas, l'heure est maintenant jugée propice, l'heure des ténèbres, on a lu au verset 53. Il y a extrême urgence, parce que dans les cours célestes, ça avait été entendu, j'enverrai mon fils, ils le respecteront. La nouvelle n'a pas manqué d'attirer l'attention de la partie adverse. C'est l'alerte maximum pour le diable et ses anges. Ce plan de sauvetage ne doit pas à tout prix aboutir. Mais comment les choses ont pu arriver là? La confrontation directe. Car à maintes reprises, l'ordre avait été donné de supprimer cette race de qui cette descendance maudite devait sortir. Combien de fois ils ont failli réussir? En Égypte, tous les enfants mâles jetés dans le Nil. En Israël, Athalie, elle n'avait pas fait son boulot jusqu'au bout. Elle a laissé Joas s'échapper. Vous vous souvenez, ça tenait d'un fil grâce à la tente. Et puis à Suse, Amon, lui, avait fait de bon boulot, mais Esther, cette petite peste, s'est mise en chemin. Et tout dernièrement, à Nazareth, à nouveau, ça a manqué de peu. L'heure donc était venue. Le retrait lors de la tentation n'était qu'une manœuvre pour mieux rebondir. Et maintenant, c'est le moment. Et Satan s'entend profiter au maximum. D'abord, s'amuser un peu. Les hommes qui gardaient Jésus se moquaient de lui, le frappaient, couvrez son visage, fais le prophète, dis-nous qui te frappe. Il accable d'injures, il crache dessus. Ensuite, on le supprimera. Satan a toutes les cartes en main, les choses sont prêtes. Mais la lecture ne s'est pas arrêtée avec Charles Abel. Sylvie nous a lu qu'il y avait un autre plan sur pied, un plan de sauvetage, les préparatifs pour cette Pâque, la vraie. Le jour de la fête des pains sans levain, verset 7, où l'on devait tuer l'agneau de la Pâque, arriva. Jésus dit à Pierre et Jean, mais va faire les préparations. Mais où, Seigneur, où devons-nous aller? Mais en entrant dans la ville, vous allez trouver un homme qui porte une cruche d'eau. Vous allez le suivre et à la maison où il entre, vous allez interpeller le maître de la maison. Où est-ce que notre maître peut préparer la Pâque? Ah, il va vous montrer que à l'étage supérieur, il y a une chambre toute prête et c'est là où nous allons préparer la Pâque. Verset 13, ils partirent donc et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Devant tout ce remous et l'urgence dans le camp adverse, ici, pas de panique. On a effectivement la nette impression qu'il y a un autre plan déjà en place. Pas de changement à introduire rapidement. Il y a eu trahison, c'est vrai, mais il était déjà dévoilé, il s'était déjà dévoilé, Judas. Et la somme même de ces 30 pièces d'argent, la valeur à laquelle ils ont estimé le Seigneur, avait été annoncée 500 ans auparavant par Zacharie. Chapitre 11, verset 12-13. Zacharie 11, 12-13. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on lit au verset 13? Vous allez y trouver tout comme Jésus leur avait dit. Deux fois dans l'espace de quelques jours. Parce que déjà au rameau, ils ont trouvé tout comme Jésus leur avait dit. Donc Pierre et Jean sont rassurés. Tout est en place, comme annoncé dans le camp de Jésus. Pas tellement, on dirait. Parce que quand la chaleur est là dans le fort de l'action, Pierre va tirer son épée pour enlever l'oreille droite du serviteur Malchus. Ils sont confrontés par une situation grave. C'est surtout pas le moment de ne rien faire. Pourquoi Jésus ne réagit pas? Il me semble que le rythme choisi par Dieu peut nous déranger, nous aussi. Devant nos délais, Dieu n'agit pas encore. Et nous, nous voyons l'heure, même les années, avancer. Dans nos épreuves, nous ne le voyons pas se précipiter. Est-ce qu'il y a quelque réconfort à constater cela pour nous? Il y a tant d'histoires dans la Bible où les préparations dure des mois, des années. La maman, Madame Manoa, on n'a même pas son nom. Quand il s'agit de donner celui qui allait délivrer Israël du temps des juges, c'est l'annonce d'une naissance, la gestion, les 9 mois. Et puis, Samson est né, il doit grandir, et puis ensuite, c'est la délivrance. Quand il s'agit d'instaurer le roi David, Anne, stérile, des années d'attente, enfin enceinte, Samuel naît, grandit dans le temple, les années et les années passent et Dieu ne semble pas bouger à notre regard. Pas moins ici que pour Jésus, à l'heure de son épreuve. Mais est-ce que pour autant on est oublié, ignoré? Le jour arriva, verset 7, ce jour prévu depuis avant la fondation du monde. Le jour qui était en vue quand Gabriel est allé à Nazareth pour avertir Marie d'une naissance à venir. Ce jour annoncé chaque année, depuis des décennies, depuis des siècles, par l'agneau sacrifié à Pâques à Jérusalem. L'heure, verset 14, l'heure même où l'agneau de Dieu devait être livré pour nos offenses, pour mes offenses. Pour le plan de sauvetage, les choses sont aussi en place, et cela depuis très longtemps. Maintenant, les jeux sont faits. Observons autour de la table, parmi les 12, Judas qui guette l'occasion favorable. Le premier tour est déjà joué. Jésus, lui, est celui qui a dû poser ses cartes sur table. Il a annoncé ses souffrances, les souffrances qui l'attendent. Il est là, il n'a plus les cartes en main. Le traître, verset 21, est dénoncé, mais pas démasqué. Judas ne bouge pas. Jésus, lui, relève la fidélité des siens, malgré tout ce qui est en jeu. Il s'est mis en position de faiblesse pour eux. Il annonce la suite, l'issue de tout ce qui est en jeu, c'est-à-dire qu'ils seront avec lui dans son royaume. Volontiers, il s'est mis en position de faiblesse. Volontiers, il les accueillera dans l'héritage qu'il est en train de gagner. Mais à quel prix? Ensuite, Jésus sort, comme c'est son habitude, les préparatifs continuent sans qu'ils soient bousculés vers le mont des Oliviers, lieu bien connu de l'adversaire, Judas, qui s'en va faire le nécessaire. Satan, verset 31, est insatisfait d'avoir que 1/12. Judas, il cherche à éliminer toute la relève. Il ne veut pas de partie ultérieure. Cette fois, il veut en finir une fois pour toutes. Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible. Mais malgré l'inconscience de Pierre, Jésus garde confiance, intercède pour lui et assure donc qu'il y aura une suite. Et maintenant, une fois au jardin, l'enjeu de la situation pèse de tout son poids sur le Seigneur. Le sort du monde entier est en jeu. Quelle sera l'issue? L'angoisse le saisit, sa prière se fit de plus en plus pressante, sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Dans le jardin, tout est sombre. Tu peux toujours laisser tomber cette partie, lui souffle Satan. C'est pas trop tard pour faire demi-tour, laissez tomber. Jésus, lui, sort du jardin, prisonnier, oui, mais pleinement dans la lumière. Il a pu communiquer avec son partenaire qui mène le jeu. Sa volonté sera la sienne. Jésus, devant les mauvais coups de l'adversaire, a joué coup franc. Il a misé sur ce qui était écrit. Tout ce qui était écrit de moi va s'accomplir. Il a confiance dans les promesses. Il reste attaché aux promesses concernant la suite. Mon Père m'a donné le royaume. Vous mangerez et vous boirez à ma table dans mon royaume. Quand la pression se fait sentir le plus fort, Jésus a recours de se mettre à genoux, mais jamais il n'a douté de celui qui tient les cartes en main. Deux plans qui se convergent. Qu'est-ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui? Avec tout ce remous, avec toute cette urgence, cette rapidité des événements. Le mal peut nous donner l'impression de prendre le dessus. L'avenir peut nous sembler être très noir. Et ça se peut que nous sommes tentés au désespoir. Le camp adverse crie déjà victoire. Mais n'est-il pas vrai que nous connaissons le meneur du jeu? Il ne se laisse pas prendre de court. Son plan pour ce monde, pour nous, est sûr. Confiance. La Pâque a été pleinement préparée. L'heure de l'épreuve, de nos épreuves, ne prend pas le Seigneur au dépourvu. Malgré tous ces préparatifs, l'adversaire ne peut pas saboter le plan de Dieu. Et c'est le plan de sauvetage, de salut, qui s'est réalisé et se réalisera. L'issue, on le fêtera en arrivant à Pâques, sera l'entière confusion d'un côté et le plein accomplissement de l'autre. Confiance dans le présent, confiance pour l'avenir, le fait de la victoire que l'ennemi cherche à miroiter est déjoué le jour de la Pâque, lors de la résurrection. Venez, nous dit Jésus, tout est prêt. Nous prions. Peut-être aussi nous pouvons nous exprimer tous, dire notre confiance malgré les hésitations, malgré les interrogations. Le Seigneur, lui, reste souverain. Seigneur, oui, nous désirons avoir ton regard sur les événements de notre monde. Nous te demandons de nous éclairer quant aux événements qui nous assaillent, que nous ne comprenons pas. Nous te prions de nous aider à garder confiance. Nous affirmons que tu es toujours digne de confiance. L'issue est sûre, tu l'as dit, nous le croyons. Nous te bénissons de ce que toi, Seigneur Jésus, tu montres la voie de la confiance en toutes circonstances. Amen.